Playlist, un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa.
Épisode 14, je chantais, ne vous déplaise.
Les Grecs anciens avaient un mot qui regroupait toutes ces choses. Ce mot, c'est pneuma. Et ce n'est pas une coïncidence, ils utilisaient aussi ce terme pour parler de l'âme. Rendre son dernier souffle, avouer dans un souffle, le souffle d'une œuvre. Au vu de l'aspect primordial derrière toutes ces expressions, rien d'étonnant donc au fait que le chant des musiques dites minimalistes se soit intéressé à la voix humaine de manière si particulière. Prenez n'importe quelle musique. Si celle-ci fait intervenir la voix, cette dernière sera toujours le premier détail qui viendra frapper notre perception. Nos cerveaux sont ainsi programmés. Tout comme ils sont conçus pour reconnaître et différencier les visages humains, ils vont immédiatement se focaliser sur les voix qu'ils entendent. La voix est donc un visage. Elle est capable d'apparaître et de transmettre quelque chose dans toutes les situations, dans toutes les figures, aussi simples soient-elles. Rappelez-vous, si vous avez suivi notre émission, un des actes de naissance les plus notables de la musique minimaliste, ce sont les pièces It's Gonna Rain et Come Out de Steve Reich. Des œuvres qui prennent pour point de départ des enregistrements de la voix humaine. La voix témoigne donc de notre humanité. Elle marque aussi notre rapport le plus primaire et intime à notre corps. Aucun relais avec la voix, aucun instrument. La voix est un instrument, qui ne se voit jamais d'ailleurs, qui reste à l'intérieur. Et cet instrument a des potentialités insoupçonnées, tout comme certaines limites aussi. Reich toujours, qui avec Music for 18 Musicians, prend en compte le souffle et les capacités maximales de ses choristes pour décider de la durée des pulses vocales qui rythment la composition. La voix raconte une histoire enfin, une histoire d'homme, de femme, d'enfant. Nous aussi, dans cette émission, nous essayons de raconter une histoire, épisode après épisode. Souvent, nous écrivons ce que nous devons dire par peur d'oublier quelque chose ou de se répéter. Alors autant le dire tout de suite, je n'ai à titre personnel pas beaucoup écrit mes interventions aujourd'hui. On fera en sorte que notre voix soit la plus libre possible pour cet épisode. On bafouillera, on se trompera certainement. Mais on aura l'excuse que ce bégaiement, ce balbutiement, il aura beaucoup à voir avec la répétition minimaliste elle-même. Notre premier numéro s'appelait « Au commencement », vous vous en souvenez peut-être, mais notre épisode d'aujourd'hui, intitulé « Je chantais, ne vous déplaise », aurait très bien pu porter aussi ce nom, « Au commencement », parce que « Au commencement » était la voix.
Vous écoutez Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com.
Et Pour ouvrir cet épisode spécial sur la voix, nous avons commencé par écouter Estonian Lullaby de Veljo Tormis, une courte pièce enregistrée par le Hilliard Ensemble dans une de ses collaborations avec le saxophoniste Jan Garbarek. Veljo Tormis, il est surtout connu pour son œuvre vocale et notamment pour une mise en musique de l'épopée finnoise du Kalevala. Quant au Hilliard Ensemble, il a été initialement créé par Paul Hillier. Et c'était un ensemble vocal de grand renom. Alors, il s'est aussi à l'aise dans les œuvres liturgiques contemporaines, par exemple Arvo Part, que dans la musique ancienne, comme celle de Perrotin, Guillaume de Machaut, deux compositeurs qui sont également cités comme influence, par Steve Reich. Décidément, toutes les voix mènent au minimalisme.
Et oui, tout à fait, Cyril. Et pour compléter ton propos, je voudrais revenir un instant sur Paul Hillier, justement. Donc, c'est un baryton anglais, né en 1949, qui devient au fil des ans chef de chœur et directeur artistique de plusieurs ensembles. Il fonde en 1974 le Hilliard Ensemble, que nous avons entendu, mais en réalité, Paul Hilliard n'en fait plus partie à l'époque de l'enregistrement que nous avons écouté en début d'émission. Il quitte en effet le Hilliard Ensemble en 1990 pour fonder le Theatre of Voices, le théâtre des voix. Et depuis 2003, il vit à Copenhague, où il est chef principal de l'ensemble vocal Ars Nova. Je limite à cela et à dessein les références biographiques. En effet, ces trois formations sont au programme de notre épisode du jour. Car en matière de musique minimaliste, Paul Hillier est un peu à la voix ce que le Kronos est au Quatuor. C'est un interprète engagé dont les efforts ont beaucoup compté pour diffuser et populariser cette musique. Steve Reich en témoigne d'ailleurs.
L'idée de Proverb m'a été suggérée par Paul Hillier, qui pensait à une pièce principalement vocale pour 6 voix et 2 percussions. J'ai fini par écrire une œuvre pour 3 sopranos, 2 ténors, 2 vibraphones et 2 orgues électriques avec un court texte de Ludwig Wittgenstein. Paul Hillier est reconnu dans le domaine de la musique ancienne en tant que chef d'orchestre et chanteur, et nous partageons un intérêt commun pour cette période de la musique occidentale, raison pour laquelle je me suis penché sur les œuvres de Perrotin pour me guider et m'inspirer.
Et c'est donc le Theatre of Voices de Paul Hillier que nous allons écouter dans cette composition de 1995, Proverb, dont il faut tout de même parler un petit peu du texte. Il s'agit d'une traduction anglaise d'un aphorisme de Ludwig Wittgenstein, dont Reich a étudié la philosophie plus jeune. « How small a thought it takes to fill a whole life », autrement dit, une idée minuscule peut suffire à occuper toute une vie. Et bien sûr, on voit tout de suite le génie de Steve Reich d'utiliser ce texte qui est à la fois un écho puissant à l'idée de l'art minimal en général, mais aussi au principe de composition même de la pièce, qui est un simple canon dans lequel les chanteurs répètent inlassablement ces mots.
Oh,
Ainsi se termine Proverbe de Steve Reich sur Radio Alpa, vous écoutez Minimaliste. Alors, dans le catalogue de Steve Reich, les pièces pour voix n'arrivent qu'en 1981 avec Tehillim et ne sont pas très nombreuses. Pour autant, il utilise dès le début les voix enregistrées sur bande, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure Cyril. Il s'intéresse ensuite à la cantillation hébraïque, puis grâce aux évolutions technologiques, il réutilise des voix enregistrées un peu plus tard dans sa carrière, mais sous forme d'échantillons qu'il manipule plus facilement que des bandes. C'est le cas par exemple dans Different Trains puis City Life. Et dans ses œuvres, les cellules mélodiques instrumentales imitent les voix enregistrées, les rythmes de la parole et les inflexions des différents accents.
Oui, bah, voir un numéro précédent, on a passé pas mal d'extraits qui illustrent tout ça.
Tout à fait. Et il faut aussi signaler une autre utilisation plus discrète de la voix chez Reich, que tu mentionnais d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. On pourrait la qualifier de voix instrument, comme dans Drumming ou Music for 18 Musicians. Le chant, vocalise sans texte, se fond dans la masse instrumentale et en enrichit le timbre.
Ça fait à peu près ça. Oh, je ne fais pas très bien. Oh,
voilà. Mais on entend à peine en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on n'y prête pas attention en enregistrement, parce qu'en concert on le voit forcément, mais cette voix effectivement peut passer complètement inaperçue parce qu'elle est vraiment dans la masse instrumentale et il explique très bien que c'est pour enrichir le timbre.
Et elle est essentielle, et comme je dis dans l'édito, il calculait un peu le souffle de chaque groupe de chanteurs pour que ça tienne, en fait. Voilà. C'est assez intéressant.
Et puis, on va se tourner maintenant vers d'autres formes de vocalise, puisque on va revenir à Paul Elieur et l'ensemble Ars Nova pour une nouvelle version d'une œuvre qu'on a déjà écoutée à de nombreuses reprises dans l'émission, n'est-ce pas?
Oui, c'est In Sea de Terry Riley. Alors, petit rappel le plus rapide possible. In Sea, séminal, pulse avec la note Do, voilà, suggéré par...
plus que suggéré, martelé.
Martelé.
soit par un piano ou des marimbas.
Et suggéré par un copain compositeur aussi.
Ah oui, suggéré par contre par Steve Reich.
Par Steve Reich, voilà. Et du coup, une œuvre qui se base sur 53 motifs qui vont de notes simples à un fragment mélodique un peu plus élaboré. Et en fait, normalement, les interprètes doivent improviser. Ils ont ça comme base et ils peuvent répéter.
Non, il n'y a pas d'improvisation, mais on peut répéter les motifs autant de fois qu'on veut, sans prendre trop d'avance ou de retard par rapport aux autres. Il y a quand même une structure assez...
Voilà.
Assez ferme.
Quand je dis improviser, c'est pas au niveau des notes, mais c'est au niveau du nombre de fois où on fait tourner les différentes parties.
Et par contre, il n'y a pas d'instrumentation dédiée au départ. C'est-à-dire que le nombre d'interprètes et les instruments qu'ils jouent sont libres. Et ça a une importance pour la suite.
Et voilà, c'est important pour la suite, puisque In Sea au départ, c'est une œuvre qui se base sur des instruments synthétiques, instruments de percussion. Il n'y a pas de voix au départ. Il y a eu quelques versions avec des voix rajoutées, hein, parce que chacun est libre un peu de faire sa propre texture instrumentale. Et Paul Elieur connaît Terry Riley, il a déjà fréquenté dans de nombreuses reprises et puis ils se connaissent, ils parlent, ils discutent et Paul Elieur n'est pas très satisfait des moments où on fait intervenir la voix. Il voudrait quelque chose de plus pur, c'est-à-dire juste les timbres des percussions et des voix. Voilà, il veut quelque chose de très pour le coup minimaliste au niveau de l'instrumentation. Il discute de ça avec Terry Riley vers 1995, qui l'encourage, qui lui suggère que en fait ce serait peut-être bien de prévoir un petit peu les tournes, c'est-à-dire de prévoir un peu le nombre de fois c'est répété, donc c'est un peu moins fait sur le moment, il y a quand même quelque chose de plus écrit au niveau du nombre de fois où on fait les structures. Et alors ça c'est très intéressant, Terry Riley du coup fournit une version de la partition qu'il avait déjà écrite où sous chaque note il y a ce qu'il appelle des syllabes sacrées qui correspondent aux notes. Et donc en fait Paul Elieur il a déjà des syllabes, lesquelles syllabes vont être répétées sa version de la pièce. Donc il parle de ça en 95 et finalement c'est que 10 ans plus tard quand il est établi à Copenhague avec l'ensemble Ars Nova qui met en branle la machine et qui construit cette œuvre. Donc on va en écouter un extrait, vous allez voir que ça fait des choses un petit peu différentes. Il y a toujours les inversions, il parle un moment dans les notes de livret d'inspiration de la musique médiévale, du gamelan aussi, le fait que les motifs s'inversent, les octaves se transposent. Mais vous allez voir que l'effet est assez différent de l'œuvre originale. C'est une œuvre qui n'a pas été très bien reçue à l'époque, d'ailleurs, par la presse musicale spécialisée, en disant oui, ça ne porte pas grand-chose, mais je pense qu'il faut la réécouter parce que ça donne une autre dimension un peu à In
Sea. Moi, je trouve que c'est une des versions les plus intéressantes.
Moi aussi, je trouve, et sachant qu'In Sea originale, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas forcément la version avec les sons que ça, qui sont un peu aigrelés, qui est la plus facile d'accès. Alors que c'est ici, justement, la voix fait que on a un bon accès à ça. Donc, INSI, extrait de la version de Lars Nova Ensemble, dirigé par Paul Hillier, Thierry Rallet, Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. À tout de suite.
Écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa ou radioalpa.com.
Alors après ce court extrait de INSEE, donc dans la version Ars Nova, trop court.
Trop court, mais peut-être qu'on trouvera un moyen de passer des œuvres entières.
Un jour.
Un jour, peut-être une petite, un petit indice pour les auditeurs. Peut-être qu'on va trouver un truc pour pouvoir passer des œuvres qui méritent de, qu'on s'y attarde 20 minutes au moins.
Voilà. Alors maintenant, on va faire quelque chose de, bah d'assez inhabituel dans l'émission. J'ai choisi de passer un morceau mystère. Et ni Cyril, ni Alexandre, notre réalisateur, ne savent de quoi il s'agit. Donc on l'écoute. Ça dure à peu près ça dure 13 minutes 30.
Et quand même.
On a le temps de se poser un petit peu et d'y réfléchir.
Il faut deviner ce que c'est ou...
Bah, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez après.
Ça marche.
C'est parti.
Thank you. Thank you.
Alors, je peux vous dire que les spéculations vont bon train dans le studio de Radio Alpa sur l'identité du morceau mystère.
On a reconnu que c'était un live, d'ailleurs les gens applaudissent.
Voilà,
que
et le son est médiocre.
Assez vieux, donc du coup on a plutôt dit 60-70 et c'est 1970.
Voilà, c'était, alors j'avais trois indices, donc c'est enregistré en 1970.
Ouais.
Le titre quand même, c'est Music for Voices, hein, ça vous avance beaucoup. Et les interprètes, le Mabou Mines Theatre Company. Alors, verdict.
Moi, je pensais un des quatre, hein, ouais. Entre la Montaigne, Riley, la Glace, Reich, mais je serais bien incapable de dire lequel. Allez, je mets mon ticket sur Riley. Non.
Alors, est-ce que Alexandre Charles, notre technicien, a un avis? Et Riley aussi. Alors c'est marrant parce que moi je savais qui c'était quand je l'ai écouté, mais j'aurais voté pour Lamont Young. Et en fait c'est Philip Glass.
Ah ok, d'accord.
C'est Philip Glass qui. Alors c'est très rare, ça ressemble vraiment pas à sa production habituelle, mais il y a quand même un indice, c'est ce qu'on entend, les espèces de claquements. Je pense, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est des indications pour changer de motif en fait. Il est vraiment dans sa phase pattern là. Où il y a les motifs qui se répètent à chaque fois avec des additions, des soustractions de temps et tout ça. Et j'imagine que cette composition-là fonctionne aussi avec ce type de pattern où il faisait un signe aux musiciens, etc. Mais là, on entend ce petit claquement et j'imagine que c'est pour passer d'un motif à l'autre. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous piéger.
Après, le fil glace des débuts, j'avoue, c'est un peu obscur pour moi encore. Après, ce que je reconnais aussi, c'est que, à mon avis, 2001, l'Odyssée de l'espace est sorti il n'y a pas longtemps avant. Et si, je vais faire un truc un peu, allez, Ligeti, il va s'en défendre, je te vais dire, non, rien à voir. Mais ça fait un peu ambiance 2001 quand même.
Et ce qui était très rigolo, j'ai souri intérieurement, puisque Alexandre Charles, notre technicien, juste avant, a passé un jingle, et nous avons plusieurs jingles au choix, et c'était un jingle avec du Philip Glass dessus.
Ouais, voilà, c'était un indice involontaire.
Exactement. Alors maintenant, pour conclure cet épisode sur la voix. Eh bien, nous allons aborder, alors forcément de façon un peu sommaire, l'œuvre si particulière d'une certaine Meredith Monk. Alors là, je l'ai dit avec le TH à l'anglaise, mais je crois que je vais reprendre l'habitude de dire Meredith parce que je le dis depuis trop longtemps comme ça. Artiste polymorphe, s'il en est, hein, elle est à la fois compositrice, chanteuse, danseuse, mime, chorégraphe, réalisatrice, metteuse en scène. Elle est officier des arts et des lettres, récipiendaire de la National Medal of Arts. Elle suit une hygiène de vie irréprochable pour préserver sa voix et revendique sa bisexualité.
Oui, alors sur l'hygiène de vie, ne vous approchez pas d'une cigarette avec elle, elle vous sulfate. Voilà, apparemment.
À 80 ans passés, elle demeure encore peu connue du grand public finalement. Mais elle a tout de même inspiré Laurie Anderson, Camille, qui lui a dédié un morceau, Björk. Sa musique a été samplée par DJ Shadow, utilisée par Godard et les frères Cohen. Meredith Monk conçoit des projets hybrides dans lesquels le chant, la danse, le jeu scénique et instrumental sont tous liés et l'ensemble participe d'une même énergie créatrice. Son approche interdisciplinaire l'a conduite à créer ses propres troupes pour jouer ses spectacles et notamment son ensemble vocal. En effet, le lien direct avec les interprètes fait partie intégrante de cette approche, notamment car, je cite, « Dans ma musique, il y a tellement de choses qui ne sont pas sur la partition, ça doit venir du corps tout entier. » Elle préfère donc transmettre directement sa musique et cette technique de chant très variée. Pour vous donner un bref aperçu de l'œuvre foisonnante de Meredith Monk, nous avons choisi deux extraits de Book of Days, création qui a pris notamment la forme d'un film et d'un album publié chez ECM et dont tu vas nous dire quelques mots, Cyril.
Oui, alors en fait, l'idée de la composition part de vision qu'elle a. En fait, c'est déjà un aspect visuel. Elle avait conçu le film avant même d'enregistrer l'album. Alors, je vais pas vous faire tous les détails parce que c'est quand même bien barré. Mais en gros, ça se passe entre le présent et le Moyen-Âge. On a un personnage du futur, donc du présent plutôt, qui interviewe des gens du Moyen-Âge, donc c'est déjà assez conceptuel, et il y a une certaine Eva qui est une jeune fille juive mystique qui est au 14e siècle et qui a des visions de voitures, d'avions, de gens dans les hôpitaux, d'une rue de New York. Ambiance très Alan Moore, je trouve, en tout cas au niveau du concept. Il y a plusieurs personnages, il y a un conteur juif, il y a un moine errant, il y a une femme folle qui en fait est pleine d'empathie et qui est
jouée par Monk, je crois.
Ok. Et du coup Eva, le personnage d'Eva a une espèce de clairvoyance, prévoit le futur. Tout ce petit monde-là meurt à cause de la peste. On redécouvre leurs cadavres plus tard et on découvre plus tard leurs dessins avec les dessins d'Eva, pardon, avec les choses qu'elle a vues du futur. Voilà, c'est un gros trip quand même.
Ah bah c'est très conceptuel, ouais. Comme souvent chez Meredith Monk. Hein.
Et on aurait pu passer un extrait de Dolmen Music, mais justement, n'oubliez pas que Minimalist n'est pas fini, encore un épisode. Et donc on va vous parler de Dolmen Music et son grand album de 80, mais Book of Days est certainement aussi une œuvre maîtresse de sa discographie.
Oui, on va écouter deux extraits assez courts, un avec plusieurs voix et l'autre avec uniquement sa voix. Le premier c'est Fields Clouds et puis on enchaînera ensuite avec Eva's Songs sur le 107.3 de Radio Alpa.
Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com.
Deux courts extraits de Meredith Monk pour terminer cette émission sur la voix. Et une petite citation aussi, elle-même cite la chorégraphe Martha Graham qui dit « Le corps ne ment pas et Meredith Monk rajoute « Eh bien, la voix non plus ». Et ça nous fait une transition toute trouvée pour notre prochaine émission puisque donc nous écoutions là « Je chantais, ne vous déplaise ».
Eh bien, dansez maintenant.
Voilà, le prochain épisode consacré.
Ce sera le nom de cet épisode, le dernier épisode de notre série minimaliste de l'année 2023 consacré à la danse.
À bientôt.